Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, on va parler de la nouvelle série France.tv en fin d'émission, Nos vies en l'air, avec le producteur Bertrand Levallois. On aura également les scénaristes Victor Legoud et Margot Bonhomme, et puis nos deux héros de cette fiction, Anthony Goffi et Nest Carmas. Un rendez-vous à ne pas manquer. La série sortira vendredi sur la plateforme Slash de France.tv. On va parler dans nos coups de cœur télé également cette semaine du Daron, qui démarre ce soir sur TF1 avec en guest Florent Père qui sera notre invité. On va parler également des Oubliés du Delta avec cette histoire incroyable qui va nous en apprendre plus sur le Ride de Camargue, justement avec Isabelle Gélinas qui sera avec nous. Luce Mouchel, elle incarne Marianne Delcourt depuis maintenant 7 ans dans Demain nous appartient. Nous aurons le plaisir de l'accueillir pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. Et puis nous recevrons également Florie Martin, réalisatrice du très beau documentaire 9 ans 9 mois qui sera diffusé mercredi à 20h30 sur LCP à l'occasion d'une soirée spéciale consacrée à l'endométriose. Et puis nous allons avoir le plaisir dans quelques secondes de recevoir Quentin de Revel, le directeur de la fiction d'M6, qui va nous parler des nombreux projets de la chaîne pour cette saison.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on va parler de la rentrée fiction d'M6 avec Quentin de Revel, qui est le directeur de la fiction du groupe M6. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a plein de choses évidemment, puisque il y a une rentrée chargée, il y a de nombreux projets qui nous attendent pour M6, mais déjà, je crois qu'on peut parler des nombreuses choses qui vont arriver, dont Murder Club, qui va arriver prochainement sur l'antenne, par exemple, mais je crois qu'il y a beaucoup de projets. Hein.
Oui, il y a beaucoup de choses, et puis il y a aussi une série qui avait été présentée à La Rochelle l'année dernière, qui n'a pas encore été diffusée, Les Espions de la Terreur, ouais, qui arrivera cet automne vraisemblablement.
Et déjà sur M6+, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ont M6 Plus Premium, vous pouvez effectivement déjà la découvrir.
Absolument, la série était tellement réussie qu'on avait voulu la mettre en vitrine lors du lancement d'M6 Plus là au printemps, donc c'était vraiment une démarche assez atypique de faire ça, et c'est amené à se reproduire. Mais donc ouais, c'est une série assez premium qu'on diffusera cet automne, et dans la foulée je pense qu'il y aura Murder Club en effet, voilà, porté à nouveau par Eric Cantona, hein, qui commence à devenir un habitué de la maison après Brigade Anonyme en début d'année. Et voilà, ce qui nous a plu dans cette série, c'est qu'il y a un côté assez atypique. Il faut savoir que sur M6 on a toujours besoin de se démarquer, hein, on n'a pas de case contrairement à France 2 ou TF1. À chaque fois on fait un peu tapis en fiction, donc il nous faut des éléments hyper saillants, hyper forts. Là, ce qui nous a plu, c'est ce duo totalement atypique, mal assorti de Tiffen et Eric, et cette série qui emprunte pas mal de codes à la série anglaise, hein, à Sherlock, à Knives Out, bon, qui est américain, mais vous voyez l'esprit un peu Agatha Christie. Voilà, donc ça,
oui,
ça
avec nous... mélange de thriller et de comédie très marqué.
Absolument, une ligne de crête de mélange des genres qui, je pense, a contribué à séduire nos comédiens.
Quentin, il y avait aussi pendant un temps, il y a eu beaucoup de fiction avec des thèmes de société. Ça, c'était un peu une nouvelle ligne éditoriale que mettait M6 en place. Hein. Je pense à La Vie, l'amour tout de suite. Je pense à plein de fictions comme ça qui ont marqué, qui ont bien fonctionné. Est-ce que cette ligne va continuer, va perdurer? durée, aussi avec des sujets forts.
Oui, alors on change un peu la façon d'aborder les sujets. C'est-à-dire qu'il y a eu une période assez dense, assez riche sur cette thématique. Aujourd'hui, le contexte fait que les gens sont malgré tout quand même à la recherche d'un peu plus de légèreté. Donc en fait, comme on n'a pas envie non plus de se priver de ces sujets-là, on essaie de les aborder par l'angle du divertissement. Alors avec divertissement, je mets beaucoup de guillemets évidemment, parce que ce sont souvent des sujets lourds. Et un film que vous avez vu qui s'appelle À la folie, qui était réalisé par Andrea Bescon, jouait avec les codes du thriller. Et c'était un film... qui nous démarquait du film sociétal habituel. Et voilà, ça, on serait amené à le refaire. En revanche, le film sociétal très frontal sont des choses sur lesquelles M6 est un tout petit peu moins attendu en ce moment. Voilà, c'est au cas par cas.
Alors, Scène de ménage, évidemment, a fait son retour pour cette rentrée, nouveau couple. Il y a plein de nouveautés, effectivement, en Scène de ménage. Un prime qui est en préparation aussi.
Oui, il y a le prime des 15 ans qui arrive, hein, on va fêter ça. Il y a une énorme originalité, c'est un tabou qu'on brise, et joyeusement, c'est que pour la première fois de l'histoire du programme, qui, je le rappelle, a 15 ans, les couples vont non seulement se croiser, mais interagir. Donc ça, c'est quand même assez... marrant d'imaginer Raymond qui va discuter avec un de nos personnages, avec toute la bonne humeur qu'il caractérise. Voilà, donc ça va être super, ça va être un événement. Et à la rentrée de cet hiver, c'est-à-dire en janvier, il y aura un nouveau couple porté par Elodie Pou et Majid Berila. Et ça, c'est toujours un événement chez nous. Scène de ménage, c'est un programme qui est mature, qui est installé et qui n'a pas le droit de se reposer sur ses lauriers. Donc on se doit de proposer aux téléspectateurs des choses nouvelles régulièrement. On est hyper content de ce qui se profile.
Et puis le gros événement d'M6 qui nous attend, et ça plus pour 2025, M6 va enfin avoir sa fiction quotidienne puisqu'elle est déjà en préparation. Et d'ailleurs, elle sera tournée dans les mêmes locaux qu'Un Si Grand Soleil. Hein.
Absolument, on l'a produit nous-mêmes, donc c'est un enjeu qui est doublement crucial pour nous. Et on a longtemps cherché sur un arc méditerranéen qui allait de Montpellier à Toulon pour faire large, pour que ce soit à la fois accessible, ensoleillé et que la filière technique soit sur place. Et en fait, quand on a vu les installations de France Télévisions qui sont assez remarquable, je dois le dire. On n'a pas hésité une seconde à leur proposer, de leur louer un de leurs plateaux. Donc les intérieurs seront tournés là-bas et on est toujours en train de repérer les extérieurs qui feront un peu le sel et le souffle de notre série. Donc ce sera un feuilleton avec tout ce qui comporte de soap, de récurrence, de feuilletonnant, de héros très projectifs et contemporains. On est hyper excités, on tourne au printemps et la diffusion sera au deuxième semestre prochain.
Donc ça serait à partir de la rentrée, a priori, septembre 2025, où vous espérez peut-être le lancer comme avait fait TF1 pendant un temps avec Demain nous appartient en plein été.
Alors les voies de la programmation sont impénétrables et je serais bien mal à l'aise de vous répondre. Non, je ne sais pas. Je suis hyper concentré sur la production de la série.
En tout cas, tournage à partir du printemps.
Ouais, le printemps c'est sûr, parce qu'on a un timing à respecter. Il faut qu'on livre la chaîne avant la fin du premier semestre et ensuite la chaîne prendra ses responsabilités.
Ça c'est un gros enjeu quand même.
Oui, c'est massif. En fait, voilà, on aurait dû s'y employer un peu plus tôt. Il est jamais trop tard, surtout chez nous, on sait rétablir une situation. On l'avait tenté, hein, vous vous souvenez peut-être de Paris 16 à l'époque.
Et pas de secret entre nous aussi.
Pas de secret entre nous. Paris 16, ça commence à frémir, on aurait peut-être dû continuer, je sais pas. En tout cas, on tire plein de leçons de ces expériences-là. Et ce qui a changé la donne, c'est le lancement de notre service, M6+. Aujourd'hui, c'est central dans notre stratégie de production, de préachat de programmes, en particulier de fiction.
La fiction quotidienne aujourd'hui est extrêmement consommée. Plus de 20% de l'audience aujourd'hui d'une fiction quotidienne, que ce soit pour TF1 ou France Télévisions, se fait sur vos plateformes.
Exactement, c'est un des drivers de la VOD, hein, donc de la VOD gratuite. C'est la télé-réalité et le feuilleton quotidien. On est très très bien en télé-réalité, comme vous le savez. Le feuilleton quotidien manque à l'appel. Et c'est le sens de l'histoire. Donc TF1 en a 3.
Bientôt 4.
Bien, il se dit que. Je m'en réjouis pour la filière. Nous, ils nous en font un absolument. Et l'impératif que je me fixe, c'est qu'il ressemble un peu à la chaîne. C'est un peu ça tout l'enjeu. Il faut singulariser dans un monde à 5 ou 6 quotidiennes.
Vous souhaitez le laisser s'installer sur la durée, lui laisser le temps? Et dans vos rêves les plus fous, à quel horaire vous aimeriez ?
Alors le rêve de tout producteur, parce qu'en l'occurrence on l'a produit aussi, et de tout diffuseur, c'est de montrer que sa série soit vue par le plus de monde possible. Moi, si vous la mettez en pleine journée, mais qu'elle est surconsommée en replay, je serais très content. Si on la met en access et qu'elle est très bien consommée en replay également, je serais aussi content. L'impératif, c'est qu'il y ait le plus de monde devant le... Donc non, j'ai pas... honnêtement, je ne rêve pas de case en me rasant le matin.
Bon, c'est déjà ça. On va parler aussi des petites chaînes qui montent, hein. Je pense à Sister, je pense effectivement aussi à Teva. Il y a eu déjà des productions qui ont été faites pour ces chaînes-là. Est-ce qu'il va y avoir des fictions courtes qui sont en préparation? Parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est en tournage pour l'une de ces chaînes.
Oui, alors déjà, faut pas oublier qu'il y a La Petite Histoire de France toute l'année sur W9, tous les samedis soirs, qui a un carton exceptionnel. Et voilà, on discute avec la production pour éventuellement la renouveler. Donc ça ne bouge pas. Sur les petites chaînes, d'une façon générale, c'est plus compliqué de faire de la fiction originale, parce que ce sont des budgets, comme vous le savez, qui sont pas à la portée de toutes les chaînes.
D'où l'importance des plateformes à côté, pour aider.
Oui, absolument. Ce qu'on appelle les fenêtrages peut aider les petites chaînes, en effet, à se permettre de faire de la fiction française. Et vous citez Teva, j'imagine, qui tourne en ce moment une série qui s'appelle Intérimaire, qui est portée par Joséphine Dray, avec Isabelle Nanty également. Voilà, ça arrivera dans les prochains mois. La précédente occurrence, c'était la série de Marie Papillon qui s'appelait Les Choses. Marier les choses, et qui était un vrai succès d'estime. Donc voilà, régulièrement Teva se permet ces petites incursions.
Et vous, Les Femmes, qui a été évidemment une série culte, la série culte de Teva.
Absolument, qui fait référence, et on en parle à chaque fois qu'on envisage une nouvelle série sur Teva. C'est notre
j'imagine bien
notre boussole.
Merci Quentin d'avoir été avec nous pour nous parler de tous ces nombreux projets qui nous attendent. La fiction sur M6 évidemment est présente, avec déjà Scène de ménage tous les soirs évidemment à 20h30. Bientôt Murder Club. Brigade Anonyme va repartir en tournage pour 4 nouveaux épisodes au printemps prochain aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc merci en tout cas pour ces bons moments. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci de votre accueil. À bientôt.
Enchantée.
C'est qui elle?
La nouvelle.
Je présente votre chef.
Une jeune recrue un peu trop instinctive.
Je traverse une masse passe.
Un ancien profiler un peu trop dépressif.
La police a confirmé qu'il pourrait s'agir d'une victime du tristement célèbre Shakespeare.
Je peux travailler avec vous pour faire équipe. You're
unbelievable. Résultat, un duo improbable.
Vous rejoignez la cellule Shakespeare, mais je veux plus le moindre écart.
Je vous déconseille de parler à cette personne, hein. C'est juste un escroc.
Plan B, je répète, plan B.
Peut-être comment en escalade?
En fait, mon plan B, c'est que je me tue, c'est ça.
Arrêtez de joindre un peu là.
Murder Club, votre nouvelle série inédite, mardi 29 octobre sur M6.
Voilà, Murder Club dès le 29 octobre sur M6 pour 2 soirées exceptionnelles. On va marquer une courte pause, on revient avec nos coups de cœur télé dans un instant. Alors surtout, ne bougez pas, Luce Mouchel, Isabelle Gélinas, Florent Père et Florie Martin vous attendent.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Parce que
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Le Daron qui débarque ce soir avec Didier Bourdon, Mélanie Bernier et en guest dans cet épisode pilote, Florent Père qui nous rejoint. Bonjour Florent.
Ça va bien ?
Eh bien, écoute, la dernière fois, on était en Guadeloupe ensemble pour Commandant Saint-Barth. On va en parler dans un instant. Mais là, tu joues le rôle d'un homme accusé de meurtre quand même dans cette série qui va voir la famille Daron sans dessus-dessous à la mort d'un des frères qui va donner tout à une avocate adverse. Évidemment, Monsieur Daron, interprété par Didier Bourdon, ne va pas voir ça du tout d'un bon œil. C'est drôle, il y a de la comédie et il est vrai que franchement, on ne s'ennuie pas une seconde devant ce film.
Eh bah, tant mieux. J'ai hâte de le voir diffuser. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. J'ai quand même tourné avec Didier Bourdon.
C'est la classe.
Donc, je vous cache pas que j'étais très très heureux à l'idée de me retrouver en face d'un des inconnus. Et j'ai découvert un partenaire génial, très généreux, qui est gourmand de comédie, de jeu, et qui a l'œil qui frise. Et ça, c'est un bonheur de voir quelqu'un qui a une telle carrière et qui n'est pas il pourrait être blasé et il ne l'est pas du tout et qui prend plaisir à jouer avec avec ses cadets. Ça s'est très bien passé avec Mélanie Bernier et avec tous les copains. Et puis c'est un plaisir de surtout d'être dirigé par notre ami Franck Belloc qui réalise cette série et qui est un très bon mec, un très très bon réalisateur. Il a une manière de diriger lui aussi de distiller de l'humour comme ça et de l'ambiance sur le plateau. Donc c'est on se sent en confiance, on a envie.
Vous pouvez voir L'Heureux Élu, hein, d'ailleurs réalisé pour lui. Hein. C'est encore dans les salles hein, avec Camille Lelouch, hein, Franck.
Exact, et c'est excellent. Mais il a toutes les infos, ça va vite dans sa tête.
Ça va très vite.
Formidable. Non, mais c'était Le Daron, c'était vraiment une super expérience. J'ai adoré.
Son rôle en quelques mots. J'ai dit que c'était un homme accusé de meurtre.
C'est une espèce de... Oui, il est accusé de meurtre. Et c'est un espèce de mytho maladroit. Quoi. Il s'empêtre dans ses mythos. Alors il est assez sympathique parce que c'est pas un mytho machiavélique, il est assez maladroit, donc c'est ça qui était sympa à jouer, c'est qu'il y a une forme de sincérité chez cette personne. Et puis des moments il a des envolées parce qu'il a un moment d'inspiration, il se dit tiens, ce mensonge il va bien nous sortir de la merde, et pas du tout généralement.
TF1 t'aime beaucoup en ce moment, je crois qu'on peut le dire, parce que tu viens tout juste de terminer il y a quelques jours Le Fil d'Ariane 2, où évidemment Chantal Latsou, alias ta maman, va encore mettre son nez dans les affaires de Jacques, que tu joues.
C'est ça, ouais. Je suis donc le commandant Jacques Vidal, qui est policier dans la police judiciaire de Sète. Et Chantal Latsou est ma mère, et c'est une ancienne chroniqueuse judiciaire, et elle vient fouiner sur toutes mes enquêtes. Mais là encore, comme pour Didier Bourdon, moi j'étais hyper... Je connaissais... Chantal, je la connaissais, c'est-à-dire on avait fait des émissions ensemble, on a fait des festivals d'humour, donc je la connaissais un peu, mais j'avais pas joué avec elle. Et là, pareil, je vois une gourmandise de jeu, une envie de jouer, de se laisser surprendre, de savourer, d'être là sur un plateau. Et c'est un plaisir, franchement, innommable d'être en face de partenaires comme ça, qui sont des rois de la comédie, et qui ont quand même l'envie de se laisser surprendre et de jouer surtout. En fait, c'est le jeu le plus important. Moi, c'est ce qui anime toujours tout ce que je fais. C'est de se dire, on joue quoi, comme des enfants.
Ce que je trouve hyper jouissif, justement, c'est de voir deux grands professionnels de la scène comme vous se faire face dans la comédie, parce que vous êtes aguerris tous les deux à la scène, justement, peut-être à ce tempo, à cette efficacité aussi dans la comédie.
Bah oui, forcément, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui connaît parce que c'est ce que vous venez de dire, quoi, le rythme de la comédie, bah sur les scènes de pure comédie, ça matche tout de suite. C'est des micro-temps, la comédie, c'est une partition, c'est un tempo. Moi, mes idoles comme De Funès, Chaplin ou Jim Carrey ou Buster Keaton ou Dupontel, enfin tous les rois de la comédie, on voit bien que c'est souvent des musiciens. Il y a une rythmique, quoi. Et quand on a quelqu'un en face de soi qui a cette rythmique-là, évidemment, ça devient jouissif de jouer.
La tournée. Alors là, c'est parti pour je ne sais combien de dates pour cet automne. On va vous les citer d'ailleurs dans quelques instants. Mais Florent, vraiment, tu t'ennuies pas? Parce que là, tu vas être sur scène pendant tout l'automne et une partie de cet hiver.
Oui, c'est ça. C'est vraiment la toute fin de l'exploitation de ce spectacle. Il reste 30 dates de tournée et ça se terminera le 19 janvier 2025 au Folies Bergère. Pour l'ultime date de ce spectacle. Après, c'est fini. Mais j'aurais fait quasi plus de 300 dates avec ce spectacle et je l'aurais joué pendant 3 ans et demi. Donc, j'en suis pas lassé. Je pourrais le jouer pendant 10 ans sans problème. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et
la boucle sera bouclée.
Oui, la boucle sera bouclée. Mais c'est vrai que cette fin qui approche comme ça, ça m'émeut un peu parce que j'adore ce spectacle, j'adore ces personnages. J'interprète tous les membres d'une troupe de comédie musicale un soir de première, et quand à chaque fois que je retourne sur scène, j'ai l'impression de retrouver la troupe et tous ces personnages, et puis je chante, je danse, je joue des chansons, enfin des musiques de Obispo. Enfin, c'est un spectacle de rêve que je me suis écrit avec Philippe Cavrivière et Mathieu Burnel, que Eric Métayer a mis en scène.
Tu t'es pas entouré des pires, dis donc.
Non, c'est vrai, je me suis pas entouré des plus mauvais. Et donc, c'est un bonheur chaque soir de se dire, bah voilà, il y a tout ce talent aussi qui m'a aidé à élaborer ce spectacle. Le public est friand de cette forme de one man qui est pas habituelle, plus comme si je jouais une pièce tout seul. Et de voir les gens qui partent dans cet imaginaire et qui font la soirée avec moi, bah c'est un bonheur. Donc, je vais savourer ces 30 dernières dates.
Et puis évidemment, tu vas voir ta série qui va débarquer bientôt sur TF1, Comment danse un barde, sur lequel on a eu la chance de partager de longs moments, en tout cas en Guadeloupe, avec toi là-bas. Et là, je pense qu'on va vraiment, hors d'une, on va être dépaysé cet hiver. Et puis on espère qu'après cette tournée, tu vas avoir l'occasion d'aller nous tourner une saison 2, parce que rien qu'à voir, moi, ce que j'ai vu déjà sur le tournage, on va pas s'ennuyer bientôt hein, sur TF1.
Non, je pense qu'effectivement, c'est une série qui fait plaisir à regarder l'hiver, hein, parce que voilà, il fait chaud, il fait beau, il y a la comédie, il y a aussi le maître mot, et je fais un policier qui est entre Magnum, Bebel, et moi j'y ai mis un peu de Nicky Larson aussi pour ceux qui ont la référence. C'est un policier joyeux, heureux de vivre, qui fait des vannes, qui fait du surf, qui se balade en chemise à fleurs, mais qui est un excellent policier, qui a des intuitions, qui est un policier sérieux et incorruptible, mais il a une manière de vivre et d'enquêter qui est bien à lui.
Tu reviendras nous en parler, évidemment. T'es super bien entouré en plus dans cette série. Joyce Bibring, Philippa Phoenix, Yannick Samo, vraiment une troupe autour de toi absolument géniale, et j'ai hâte vraiment qu'on découvre en tout cas les images bientôt sur TF1. Ça sera découvrir une nouvelle série Sous les Tropiques, tournée en Guadeloupe, et puis on t'espère une saison 2 évidemment déjà.
C'est le pire qu'on puisse me souhaiter.
Exactement, ça sera l'occasion de revenir te voir.
Exactement, avec grand plaisir.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Florent. On te retrouve dans Le Daron, c'est ce soir à 21h10 sur TF1, bientôt dans Commandant Saint-Barth. Et toutes les dates de la tournée, c'est juste après la bande-annonce du Daron. Merci.
Merci beaucoup. Et aussi Le fil d'Ariane numéro 2.
Et Le fil d'Ariane 2, évidemment. Mais ça, on aura le temps d'en parler, puisque ce ne sera pas diffusé avant quelques mois. Mais on reviendra avec toi. À très
merci
vite.
Merci beaucoup, à très bientôt. Salut.
Maître, il faut que je vois tout de suite. C'est une urgence, je me vis dans une heure, c'est une question de vie ou de mort.
Ah ouais? Ah, c'est une question de mort, en fait.
Couvrir un meurtre, vous êtes un grand malade?
Mais pas du tout.
J'exige d'être sur cette affaire avec vous, sinon je raconte tout au flic.
C'est pas beau, le chantage, hein?
Bon, la meilleure stratégie, c'est de tout mettre sur le dos de votre associé.
Vous comptez accuser un innocent pour faire libérer votre client?
Oui.
Non?
Vous n'avez aucune preuve pour l'accuser de ce meurtre.
On a retrouvé le corps dans sa voiture.
Je n'ai pas bougé de chez moi, je jure sur la tête de ma mère.
Votre mère, elle est morte. Vous vous foutez de moi?
Je vais dire la vérité, ok?
Oh, alors, peut-être pas toutes.
Vous n'avez aucune éthique. Je déteste tout ce que vous représentez.
Tempérament volcanique. J'adore.
Et pour applaudir Florent Père en spectacle, ça sera le 9 novembre à Uzès, le 24 novembre à Tours, le 7 décembre à Montpellier, le 10 décembre à Narbonne ou encore le 12 décembre à Gorges, en Loire-Atlantique. Allez, notre coup de cœur télé consacré à LCP qui proposera un débat documentaire exceptionnel et inédit mercredi à 20h30 qui s'intitule 9 ans, 9 mois avec Florie Martin aux commandes qui a écrit et réalisé ce film et qui est avec nous une nouvelle fois qu'on avait eu le plaisir d'avoir pour Réparer les vivantes. Bonjour Florie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 9 ans, 9 mois raconte le parcours du combattant de Cécile qui a mis 9 ans et 9 mois pour tomber enceinte quand le miracle arrive, et c'est tout ce parcours qu'on va découvrir dans le film, mais surtout aussi des témoignages exceptionnels de ces combattantes qui tentent tout, qui souffrent aussi en silence, parce que l'endométriose c'est aussi ça, c'est des souffrances terribles pour les femmes, et c'est bien de pouvoir mettre en lumière effectivement cette maladie dont on n'entendait absolument pas parler il y a encore 10 ans. C'est ça qui est dingue.
Exactement. Et si on connaît un peu mieux cette maladie, c'est aussi grâce à Cécile Tony qui accepte de livrer son témoignage intime et sur son parcours pour avoir un enfant et sur sa maladie. Donc, je trouvais ça chouette aussi de pouvoir mettre en lumière à la fois sa vie, son parcours et j'ai envie de dire son œuvre pour militer aussi, pour faire connaître cette maladie, obtenir des subventions pour que la recherche avance sur l'endométriose, parce que ça concerne quand même une femme sur 10.
Et il faut rappeler qu'il n'y a aucun traitement aujourd'hui.
Alors non, effectivement, il n'y a aucun traitement. Après, il y a aussi des prises en charge, ostéo, médecine douce, etc., qui peuvent exister. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site d'Info Endométriose, qui est l'association qui est actuellement présidée par Cécile Tony, l'héroïne de notre documentaire.
Oui.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en parler, dépister la maladie, notamment avec des radiologues formés. Et c'est vrai que l'association qu'elle préside a fait beaucoup avancer les choses à ce niveau-là, pour qu'il y ait dans toutes les régions des parcours santé avec des médecins qui orientent vers des radiologues formés, parce que c'est une maladie qui est pas forcément facile en plus à découvrir, déceler. Donc il faut vraiment qu'il y ait des formations là-dessus, quoi.
Comment expliquer, Florie, qu'il y a eu peut-être un tabou, une omerta un peu sur cette maladie avant qu'elle arrive un peu au grand jour comme ça, alors qu'elle a toujours existé? Aujourd'hui, elle touche une femme sur 10. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un début d'explication, qu'on entende parler tant que depuis une petite dizaine d'années?
Oui, disons que c'est une maladie qui est liée aux règles. Et les règles, bah, c'était très tabou, c'est encore très tabou dans notre société. Personne n'a vraiment envie de raconter j'ai mal pendant mes règles. Il peut y avoir des préjugés également. Beaucoup de femmes qu'on rencontre, et puis notamment Cécile en parle aussi dans le documentaire, t'as mal, bah c'est normal, t'as tes règles. Même les mamans, même les tantes disaient, mais écoute, oui, t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Donc on a l'impression que c'est nous qui ne sommes pas préparés.
C'était banalisé,
à cette douleur,
quoi, peut-être même.
C'était tout à fait banalisé. Et voilà, certains disent, certaines femmes de l'association disent en souriant, ou certains médecins, si ça avait été une maladie d'homme, peut-être que en fait, qui n'était pas lié aux règles, évidemment qu'il y aurait peut-être eu des moyens de recherche plus tôt pour trouver des solutions pour les soulager ou pour opérer.
Alors, on suit évidemment le combat de Cécile, mais on suit beaucoup de témoignages. On voit celui, par exemple, d'Enora Malagré, hein, qui explique des fois cette tordue de douleur pendant des pauses pub, par exemple, ce qui est assez terrible. Mais aussi, on apprend qu'il faut beaucoup d'argent, justement, pour cette recherche. Donc, il y a un véritable appel aux dons aussi, hein, qui est fait lors de cette soirée.
Tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Voilà, c'est de sensibiliser, que chacun puisse se renseigner. Et effectivement, la recherche, ça coûte très très cher. Ça coûte des millions d'euros. Hein, donc, effectivement, il y a aussi un appel aux dons qui est organisé autour de cette maladie, parce que on ne sait pas encore d'où elle vient. Les multifactorielles, la maladie, et en plus, elle est différente d'une femme à l'autre. Quoi. C'est-à-dire, que c'est une maladie qui est un petit peu compliquée à déceler, à découvrir, et puis qui en plus prend différentes formes chez selon les femmes qu'elle touche. Moi, j'ai quand même découvert avec Cécile, qui a notamment réalisé des podcasts avec différentes femmes touchées, que certaines femmes pouvaient avoir jusqu'à un pneumothorax, hein, c'est-à-dire que l'endométriose avait contaminé les organes, et ça pouvait quand même aboutir à un pneumothorax. Donc moi, c'est des choses que j'ignorais, notamment celles qui veulent avoir un enfant, parce que on sait aussi qu'elle est responsable d'infertilité dans 40% des cas environ.
Oui, c'est ça aussi quand même que le film met en lumière. Il y a quand même, c'est quand même un film sur l'espoir aussi, hein, de voir cette petite fille naître au bout de 9 ans et 9 mois d'essai aujourd'hui. Donc il y a quand même un bel espoir. C'est un film aussi sur l'espoir.
Oui, c'est ça. C'est vraiment l'histoire de ce couple qui a tout fait pour avoir ce bébé, et donc qui a suivi les recommandations des médecins, donc dans les parcours qu'on appelle parcours de PMA, procréation médicalement assistée, et donc
et aussi parcours du combattant, on appelle ça aussi, je crois,
parcours du combattant. Oui, surnom qu'on pourrait donner, et donc qui a fait les inséminations, les piqûres à telle heure, très voilà, qui a vraiment essayer de faire son maximum pour donner les chances d'avoir un bébé. Et vous découvrirez effectivement dans le film, comme finalement Cécile l'a découvert au bout de quelques années, que ben elle, en tout cas, même si elle était bonne élève et même si elle s'est pliée à l'exercice pour avoir un bébé dans un parcours PMA, ben, ça ne pouvait pas marcher dans son cas à elle, en fait, parce qu'elle avait une endométriose profonde qui affectait sa fertilité. Néanmoins, elle n'a pas lâché, elle a quand même continué alors que les espoirs étaient très faibles. Et puis, au fil des rencontres, au fil de son engagement aussi dans l'association Info Endométriose, eh bien, elle va changer de structure, rencontrer des nouveaux médecins, etc. Et trouver un espoir, une solution, presque, j'ai envie de dire, un miracle. Elle parle de miracle pour finalement avoir eux aussi un enfant.
Quand je vois les témoignages, ce qui est assez terrible, c'est on le voit, elles disent on n'en meurt pas, mais psychologiquement, c'est tellement difficile pour une femme qui veut avoir un enfant, pour les souffrances tous les mois. On n'en meurt pas, mais psychologiquement, c'est éprouvant, quoi.
Exactement, et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est pareil, on connaît tous des personnes concernées dans notre entourage qui pour la plupart n'en parlent pas hein, parce que c'est très très dur. Donc c'est dur pour la femme, enfin là en l'occurrence quand c'est la femme qui est touchée par cette infertilité, et c'est dur pour le couple. Et en fait je pense que ce qu'on voit aussi à travers leur histoire, c'est que voilà, il faut beaucoup d'amour. On va pas se le cacher, certains couples peuvent se séparer à l'issue d'un parcours PMA, ça peut être compliqué. À la première tentative, il y avait au moins un couple sur quatre qui arrêtait, et je crois qu'il y a trois couples sur quatre qui arrêtent les tentatives de PMA lorsqu'elles ne fonctionnent pas.
Ne manquez pas en tout cas cette soirée inédite, ça sera mercredi à partir de 20h30, ça s'appelle 9 ans, 9 mois, écrit réalisé par Florie Martin. Vous verrez plein de témoignages dont ceux d'Enora Malagré ou encore Julie Gaillet, vous découvrirez l'histoire de Cécile et Benjamin justement, et de ce combat et qui tout ce qu'ils ont pu faire pour déplacer les montagnes, et ils ont réussi. Donc voilà, c'est un film d'espoir aussi. Merci beaucoup Florie.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
J'ai souvenir de gros moments de douleur de Cécile où elle avait des maux de ventre absolus.
Ça t'attaque quoi, c'est comme des coups de poing, c'est des tiraillements où je m'accroupis carrément quoi. J'ai ce truc physique où je... Ah.
Moi, les règles, c'est vraiment la semaine de l'enfer.
Il y a les coups de poignard dans le ventre, puis dans le bas-ventre, comme si tes ovaires étaient tellement inflammés. C'est du feu.
Qui connaît l'endométriose ?
Waouh !
Waouh !
Je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui clochait. Et avec le temps, ça s'est révélé.
Allez, soirée Taratata sur France 2, vendredi. Du coup, la fiction bascule sur France 3. Cette occasion, vous allez pouvoir découvrir l'inédit Les Oubliés du Delta avec Isabelle Gélinas qui nous rejoint et qui est avec nous aujourd'hui en ligne. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler donc de ce film qui met en lumière une histoire assez méconnue où des ouvriers vont exhumer des ossements humains au cœur de la Camargue et découvrir qu'effectivement, eh bien, il y a toute une histoire qui remonte aux années 40 et aux Indochinois qui ont été enterrés là. Et c'est Marianne Prévost que vous incarnez qui va donc devoir enquêter, essayer de remettre surtout un nom sur chacun des corps exhumés. C'est une histoire méconnue et c'est surtout inspiré d'une histoire vraie.
Absolument, c'est-à-dire qu'on a fait venir d'Indochine des hommes en âge de se battre pour la guerre, et au lieu de les renvoyer chez eux après la guerre, ils ont été engagés et asservis surtout à la culture du riz et dans des conditions de vie assez déplorables. Et donc là, la fiction dans laquelle je joue, donc Les Oubliés du Delta, effectivement, comme vous l'avez dit, au début du film, on découvre un charnier, et parmi ces charniers, il y a quatre corps d'Indochinois et un corps de femme qui n'est pas indochinois. Elle, et donc mon personnage va devoir remonter toute l'enquête, sachant qu'elle est habituée, elle est commissaire, mais elle est également envoyée aux quatre coins de la planète dès qu'il y a une découverte de charnier, parce qu'elle est, pour authentifier les cadavres, elle est très très pointue. Et c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'elle est assez solitaire, c'est-à-dire qu'elle est mariée, mais comme elle part tout le temps en mission, elle a une vie de famille, elle n'a pas d'enfant, elle a une vie de famille qui est quand même très fragmentée. Elle a encore des traumatismes qui remontent, qui rejaillissent régulièrement, qui viennent la hanter, parce qu'elle a vu des scènes vraiment horribles. Donc c'est un personnage, c'est pas juste une flic, quoi. C'est un personnage qui a une humanité, qui accepte de se faire dévorer par ce qu'elle découvre et de plonger pour faire la vérité, pour aller chercher la vérité.
Qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Un personnage
oui,
plus complexe.
Oui, elle est plus complexe qu'elle n'y paraît. Ouais. Et on fait un duo avec Raphaël Rousseau, qui est absolument épatant. Raphaël Rousseau, donc qui joue Lola, qui elle est jeune, très libre, qui vit sur la plage dans une caravane, enfin dans un mobilhome, qui fait du surf et qui est très pointue aussi. Et le mélange de ces deux femmes, ça fait un duo assez intéressant.
Ça va faire des étincelles.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est original. C'est pas des personnages qu'on a déjà vus. Donc c'est ça qui m'a plu aussi. Et puis la réalisatrice Leslie Gwinner, elle nous a dirigé très délicatement, avec beaucoup de finesse. Elle a fait des plans magnifiques. La Camargue est sublime. Voilà, c'était un bonheur de tourner là-bas aussi. On a Anna Alvaro qui nous a rejoint dans l'aventure, qui est une immense comédienne. Et voilà, c'était une aventure assez belle humainement intéressante parce que il y a quand même ce fond d'histoire qui est là et qui a vraiment existé. On a même croisé quelqu'un qui descendait, qui était un descendant d'Indochino de l'époque. Et quand l'histoire rejoint aujourd'hui, ça c'est fort, quoi.
Ouais, c'est ça qui est assez dingue, c'est de voir cette histoire remonter aujourd'hui alors qu'elle est passée quasiment sous les radars. Et
c'est grâce à ces êtres merveilleux qui ont été esclavagés, c'est grâce à eux qu'on a du riz en Camargue, hein, quand même, avec leur savoir-faire, leur courage et leur patience. Et voilà, à l'embouchure du Rhône, ils ont été exploités clairement.
Et précurseurs par la même occasion, puisque voilà, comme vous le disiez, voilà. Effectivement, s'il y a du riz en Camargue, c'est grâce à eux aujourd'hui. Alors dans cette enquête, il va y avoir effectivement cet individu qui va voler un corps à la morgue. Alors ça va poser tout plein de questions. Pourquoi ? Quel terrible secret on cherche à effacer avec effectivement ce vol et cet individu-là, où on ne sait pas qui c'est au début, bien sûr. Hein. Et puis tout un casting autour, Tom Hudson, Caroline Riou, il y a vraiment du beau monde hein, autour, en tout cas de vous tous.
Ah oui, on était bien entourés. Et je vous dis, la réalisatrice, elle a bien choisi ses comédiens et elle les a bien dirigés. C'est très agréable d'avoir une histoire forte et une réalisatrice intelligente et subtile et des partenaires qui viennent du théâtre pour la plupart. Donc on a répété un peu, on a fait des lectures. Voilà, on a affiné des choses, on a creusé d'autres choses. Voilà, on a travaillé sur la solitude beaucoup du personnage, de mon personnage en tout cas. Sur le plan artistique, c'était intéressant et je pense que le résultat est bien. Moi, j'ai pas vu parce que je ne vois jamais, mais
je confirme que c'est bien.
C'est bien, bon, ben voilà.
Voilà. Et puis, j'ai trouvé intéressant, effectivement, c'est de mettre ce personnage de Marianne, qui a une réputation, effectivement, d'être, la meilleure dans son domaine et qui est un peu une star de la police judiciaire. Et puis, cette jeune Lola, qui est un peu, à ses débuts, qui est un peu au placard depuis 6 mois et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller sur le terrain et va, justement, profiter de cette bouffée d'air qui, au début, elle s'est dit, hop, qu'est-ce qui se passe, il y a eu un peu des réticences, et puis elle va aller, se lancer dans cette enquête aux côtés de Marianne. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces deux personnages, aux carrières complètement opposées, finalement.
C'est ça, il y en a une qui est plutôt en fin de carrière et l'autre qui est en tout début de carrière. Elles ont deux personnalités complètement opposées. Il y en a une qui est solaire, c'est Lola, et l'autre qui est sombre, c'est Marianne. Et vraiment, a priori, il y a beaucoup de choses qui les opposent, et évidemment, comme toujours, c'est ce qui fait la richesse de la relation, cet antagonisme entre ces deux personnages qui est vraiment puissant et vraiment original, je trouve, moi.
Eh bien, on va mettre en lumière Les Oubliés du Delta. C'est donc vendredi soir, c'est à 21h10 sur France 3, le spécifique, puis sur France.tv, bien sûr aussi. On va passer au projet, évidemment, Isabelle, puisqu'on va avoir le grand plaisir de retrouver Les Boulets et Les Lupiques dans une série culte qu'on aime tous, mais tellement. Et vous aussi, j'ai l'impression, Fais pas ci, fais pas ça, avec un épisode spécial qui va nous emmener loin, très loin.
Très très loin, oui, on va quitter la Terre. C'est même pas qu'on va quitter Sèvres ou Paris ou la France ou l'Europe. On quitte la Terre, on va sur la Lune, tout simplement. Anne Jaffery a imaginé une folle aventure, une folle épopée pour nos 4 personnages. Voilà, on a été très heureux de se retrouver. On a tourné ça sous la houlette d'Alexandre Castagnetti, qui était tout à son affaire et vraiment super bon pour parce que c'était quand même assez technique aussi. Et donc voilà, c'était des nouvelles aventures qui nous ont embarqués fort loin et fort gaiement.
Et on aura le plaisir de recevoir votre mari pour la diffusion, Bruno Salomon, qui viendra nous rejoindre bientôt pour en parler.
Puisque vous êtes chanceux.
Eh oui, et la diffusion, c'est bientôt. Hein. On attend avec impatience, on espère d'ici la fin de l'année que ça soit notre cadeau de Noël. En tout cas, je n'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres projets, Isabelle?
Des projets de théâtre, mais qui sont pas encore complètement validés. Un projet de cinéma qui est pas encore complètement sûr non plus. Donc voilà, il y a des choses, mais pour l'instant, il y a rien encore de dissible. Parce que, vous savez, on est superstitieux, nous, les acteurs. Quand
et
on
oui,
signer,
ça sera l'occasion de revenir, nous en parler.
Avec plaisir, avec plaisir.
Merci beaucoup Isabelle, on se dit à très très vite, Les Oubliés du Delta, vendredi 21h10 sur France 3, et bientôt dans Fais pas ci, fais pas ça, pour une nouvelle soirée inédite. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour, Lola Ardant, c'est le commissaire Duval qui m'envoie. Tenez, ça c'est les prélèvements ADN des 3 témoins.
Les photos des corps sur les chaînes d'infos, ça vient d'où?
Je sais pas, juste quand je suis arrivée, j'ai trouvé un type dans la fosse.
Un photographe?
Il a laissé un bidon d'acide derrière lui.
Ah non, il a pas détruit les corps?
Non, il a pas eu le temps, il s'est enfui quand j'ai voulu l'intercepter.
C'est pas ce que j'appelle préserver une scène de crime. Hein.
La photo, là, ça a été pris par un des étudiants, mais c'était avant notre sécurisation. Et j'ai demandé à Ligi de récupérer le bidon d'acide pour un prélèvement d'empreintes.
Ok, c'est où?
C'est par là.
Ouais, les corps ont été enterrés les uns à côté des autres, mais pas en même temps. Ces 3-là ont reçu de la chaux. Celui-ci a eu droit à une tombe plus profonde. C'est pas un charnier, c'est une fosse commune.
Jean-Louis, dès que t'as fini le relevé, on emmène les corps au plus vite à l'hôpital d'Arles. Ils nous prêtent une salle désaffectée en guise d'IML. On a eu assez de visiteurs comme ça.
Allez, coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient. Et quel bonheur pour nous de recevoir pour la première fois Luce Mouchel qui joue Marianne Delcourt. Et Luce, je voulais te dire à quel point j'étais fan de ce personnage.
Oh, bah alors ça me touche beaucoup. Moi aussi, je suis assez fan de ce personnage. Je trouve qu'il est de mieux en mieux écrit, de plus en plus enrichi. Je me régale après 7 ans. Toujours autant de l'interpréter.
Et malgré les malheurs qui ont pu arriver au personnage et dernièrement avec la mort de Renaud, il y a toujours des touches de comédie. C'est une femme forte qui se relève de tout. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vraiment une femme battante. C'est un exemple, je trouve, cette femme.
Oui, alors après, bien sûr, il y a cette donnée-là qu'elle se remet de tout. Mais quand même, en 7 ans, on l'a beaucoup humanisée. Avant, c'était un rock... Voilà, elle a toujours un problème avec l'expression de ses sentiments et tout ça, mais là quand même avec le deuil qui a été un gros coup dur effectivement, on a pu la voir vraiment vriller et se fragiliser avec toujours la même lutte que ça ne se voit pas. Mais ce qui était très fort justement, c'est que elle avait dans sa voix, dans son énergie, la même volonté que ça ne se voit pas, et en même temps. Les larmes coulaient toutes seules. Et bien sûr, c'est un malheur, mais comme, enfin, on est dans la fiction, donc comme acteur, c'est juste génial à faire, comme actrice. Et
on a été un peu les complices, nous, spectateurs, justement, de voir ce vernis craquer.
Exactement. Vous, les spectateurs, bah, bien sûr. Puis il y a plein de gens qui se sont vraiment, c'est le propre un peu d'une quotidienne, parce que on est vraiment très proche des gens tous les jours. Mais là, moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient qu'ils vivaient un deuil exactement en même temps que le mien, et ça les a aidés quelque part, de voir à quel point ça peut détruire une personne et qu'en fait, on va remonter la pente tout petit à petit, quoi.
Et c'est pourtant un personnage qui amène des touches de comédie depuis le début de la série, mais qui nous fait rire dans sa relation avec sa fille, pas toujours facile. Elles ont du mal à communiquer souvent ensemble. Et c'est ça qui est beau, ça amène des touches de comédie finalement.
Ah mais moi, sans la comédie, je n'existe pas. Hein, donc il faut toujours de la comédie, mais même dans le deuil, je dirais pas qu'il y avait des scènes de comédie, bien sûr. Elle peut pas s'empêcher de faire de l'humour, quoi, parce que l'humour, c'est une distance, c'est une protection par rapport à la réalité aussi. Ça crée une distance. Donc devant cette souffrance, elle avait besoin de ça. Et puis effectivement, avec Chloé, bon bah là, c'est sûr que ça va y aller. Là, la rentrée en plus, enfin la rentrée a déjà commencé, mais Chloé qui est infirmière à l'hôpital, elle va marcher sur les plates-bandes de Marianne. Ça va donner lieu à des scène, mais vraiment cocasse, d'engueulade et tout, parce qu'elles s'adorent, mais elles passent leur temps à se chamailler, quoi.
Elle a une mauvaise foi, toute épreuve, c'est ça qui est drôle aussi.
Mais c'est ça que j'adore chez elle, c'est sa mauvaise foi. Moi, j'adore, c'est extraordinaire pour un comédien de jouer quelqu'un qui a une telle mauvaise foi. Et franchement, ça continue. Les auteurs, ils y vont à fond, parce qu'ils voient à quel point je me régale là-dedans. Ils y vont vraiment à fond là-dedans, c'est super.
Et puis du coup, ça permet que tu ne te lasses pas, toi, Luce Mouchel?
Alors moi, je me lasse pas du tout. J'ai un plaisir immense parce que je pense qu'on m'écrit des choses formidables, quoi, avec une palette immense de couleurs. Donc c'est ça, je peux pas m'ennuyer. J'ai plein de choses différentes à jouer. Alors je vous cache pas, il y a des intrigues plus intéressantes que d'autres. Le deuil, c'est quelque chose d'extraordinaire à jouer. Tout ce qui est drama, d'ailleurs, en général, c'est assez. Mais quand j'ai des scènes des trucs de comédie, parce que Marianne, quand même, elle fait celle qui est très loin de toutes les petites querelles et tout ça, mais elle adore de savoir ce qui se passe dans son hôpital, qui est avec qui, enfin elle assume pas, mais elle adore, elle est très commère en fait, et il y a plein de choses comme ça qui la rendent marrante, parce que elle assume pas, mais elle adore en fait, voilà.
Il y a vraiment des scènes de comédie, beaucoup de scènes de comédie, Luce, m'ont marqué sur le personnage de Marianne, et pourtant, moi celui qui ressort et qui m'a le plus bouleversé, c'est cette scène de deuil au restaurant, après l'enterrement de Renaud, où elle s'est mise à discuter avec lui comme un fantôme. Cette espèce de passation, cette scène nous a tous mis, mais sans dessus dessous, les spectateurs.
Avec le fantôme de Renaud juste à côté, et tout d'un coup, en une fraction de seconde, elle n'est plus dans la réalité, elle est dans une autre réalité, elle pense qu'elle a rêvé tout ça, et que son mari est à côté d'elle, et 2 secondes après, le sourire se fige, elle revient dans cette dure réalité, et ça c'est quelque chose qui est très symptomatique du deuil, c'est qu'il y a toujours un moment donné où on l'a effacé.
Et pourtant tu lui as mis une poésie folle dans cette scène, à tous les deux, avec Pierre bien sûr.
Oui, parce que c'est une scène muette, tout en impression, on se frôle, tout est impressionniste, et c'est très doux et très très fort en même temps, et c'est de l'ordre du rêve un peu, donc c'est ça qui amène le côté poétique.
7 ans plus tard, Demain nous appartient toujours là, toujours avec le même succès. Quand on démarre une aventure comme ça, t'es là depuis le premier épisode, évidemment personne n'ose imaginer que 7 ans plus tard, on serait encore là.
Ah bah personne, et alors moi la dernière, parce que au départ ça devait être juste une série d'été, et puis moi j'allais au théâtre après, parce que d'autre part je fais beaucoup de théâtre. Mais je sais pas, on s'est laissé tous happer par le talent de toute cette équipe. Ça n'est, en fait, c'est un travail d'équipe, hein, de tous les comédiens. C'est une petite partie de tout le reste. Toutes ces équipes fonctionnent à merveille ensemble, mais c'est un gros challenge, hein, parce que c'est une grosse, grosse machine. Il faut vraiment, je sais pas, ça tient un peu de la magie, du retour des spectateurs qui nous suivent, qui sont très fidèles. Mais je pense que si, parce que les histoires les captent aussi, enfin les captivent. Et merci aux auteurs, beaucoup, hein.
Bon, on va avoir lieu à des scènes cocasses, donc évidemment entre Chloé et Marianne, avec l'arrivée de Chloé qui va avoir son diplôme d'infirmière, et évidemment ça va donner à des scènes d'anthologie, donc beaucoup de tournages à l'hôpital, hein, évidemment dans ce décor. Et Pierre se plaignait souvent qu'il n'y avait pas de chez vous, il voulait une maison pour le coup. Il disait c'est dingue, Renaud et Marianne n'ont pas de maison, n'ont pas de chez eux, donc ça y est, c'était réparé quand même un petit peu.
Alors, ça a été réparé puisque Marianne a déménagé. Mais on n'a pas encore vu la maison.
On n'a pas vu l'appartement parce qu'il y a encore les cartons.
Voilà, il y a encore des cartons. Moi-même, je n'ai toujours pas vu l'appartement.
T'as vu, je suis. Hein.
Parfait. Donc, on va finir par découvrir cet appartement qui est, voilà, où la moindre étagère était un problème. Non, non, bah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas... Enfin, on a eu des maisons quelquefois, mais c'était des telles villas sublimes qu'il fallait tourner beaucoup pour les rentabiliser. Puis, on n'a pas... Voilà, il n'y avait pas de choses off écrites suffisamment, parce que c'est vrai que le biotope de Marianne, c'est l'hôpital, hein. Mais moi, ça me va très bien parce que j'adore l'hôpital, j'adore ce décor-là. C'était mon premier décor. À l'époque, on me l'a présenté le premier jour, enfin, la veille du premier jour de tournage. J'ai dit, ça va être ma maison, en fait. Ouais, c'est impressionnant et c'est très beau. Ouais.
Le décor est très joli. On va terminer par les points communs entre Luce Mouchel et Marianne Delcourt.
Alors, cette espèce de second degré et d'œil qui frise, c'est moi et c'est Marianne. Ça, c'est, je sais pas qui a apporté l'une la chose à l'autre, mais toujours cette espèce de second degré derrière. Il y a une chose que je n'ai pas du tout moi et que j'aimerais des fois, c'est le côté cash, comme Marianne. Elle est très cash, elle dit ce qu'elle pense aux gens, elle se laisse pas démonter. Moi, c'est tout le contraire. J'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, je déteste blesser les gens, donc voilà. Et puis, le côté un peu... à son insu, parce qu'elle joue pas trop de ça, mais un peu, un tout petit peu, c'est la nuance, un peu séductrice au sens, pas forcément que la belle femme ou je sais pas quoi, ce qui serait pas intéressant, mais qui est, elle aime bien avoir une certaine aura, elle aime bien faire de l'effet aux gens, sans en abuser, mais elle fait toujours celle qui est un peu, voilà, puis elle sait très bien l'effet qu'elle fait aux gens. Ça m'amuse.
On va te retrouver bientôt dans Le Combat d'Alice, également un très joli film de Thierry Binisty où tu auras l'occasion de revenir, en tout cas nous en parler pour notre plus grand plaisir. On te retrouve bientôt du coup.
Très bientôt, et vraiment le film de Thierry était... je fais le grand écart, hein, je fais une agricultrice, on est loin de Marianne, mais c'est un très très beau film, vraiment.
Et ben, tu reviens, je t'invite en tout cas à venir nous en parler au moment de la diffusion pour parler du Combat d'Alice. Merci Luce, maintenant on est connecté, on va plus se quitter. Merci, à très bientôt.
Merci, ok, on se quitte pas, d'accord.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai mon qui tremble, je cherche un peu la flamme, est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde. Mais la pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Mon rage se fait plus fort. Est-ce que c'est dans ma tête? Pourquoi moi qu'il reste encore une chance. Moi je m'en fous si la pluie coule encore. Je sais qu'on en sortira plus fort. Dis-moi que tu m'aimes encore, la pluie coule encore. Et moi j'aime quand nos cœurs se dévorent.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de Nos vies en l'air qui sera en ligne sur France.tv, qui sort une série à découvrir en cette fin octobre avec le producteur qui nous rejoint, Bertrand Levallois. Bonjour.
Bonjour.
Margot Bonhomme qui a écrit cette fiction, mais pas qu'à une main. Victor Legoud, un des deux scénaristes, est également avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Nos vies en l'air commencent par Mina et Océan qui vont se rencontrer sur le toit d'un immeuble, tous les deux, prêts à se foutre en l'air, hein, en quelque sorte, mais vont avoir une nuit pour peut-être changer les choses. C'est ce qu'on va découvrir. Moi, ce que j'ai aimé dans votre fiction, c'est qu'on va au fur et à mesure du temps, découvrir pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont prêts à passer à l'acte. Et c'est tout plein de flashbacks comme ça dans leur vie qu'on va découvrir de ces deux ados prêts à commettre l'irréparable. C'est comme ça que vous l'avez voulu construire ce scénario, tous les deux déjà?
Ah bah absolument, quand Bertrand Levallois est venu vers nous, c'est moi ce qui m'a plu le plus, parce que je baignais dans une série qui s'appelle This Is Us depuis un moment, ou dans toutes les séries de Jean-Marc Vallée, et c'est vrai que cette double temporalité pour raconter cette histoire m'a tout de suite touchée et intéressée, et j'avais très envie de travailler sur ce thème, d'autant plus que cette période de l'adolescence est aussi un thème qui me plaît beaucoup, et c'est là aussi où Victor nous a rejoint, parce que c'est lui un thème presque de prédilection, n'est-ce pas? Je sens pouvoir parler pour toi et je te laisserai après, mais voilà, c'est cette construction du passé présent, les conséquences du passé sur le présent, et comment on devient, et le poids de l'enfance aussi à un moment. Moi, c'est ce qui me touche toujours dans mon travail, sur ce quoi je travaille, c'est cette injustice de l'enfance où en fait on est dépendant de d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui dessinent pour nous, et en fait ça va nous sculpter et il va falloir faire avec pour le reste de notre vie. Et voilà, j'aime beaucoup travailler là-dessus, et donc le livre que nous avait confié Bertrand, c'était ça, l'architecture de base. Après, c'était le livre de Manon Fargeton et a une structure basée sur le fait que les adolescents se lançaient beaucoup de défis pour tester la vie, parce qu'ils voulaient en fait mourir. Et là-dessus, France Télévisions nous a demandé de faire quelque chose de beaucoup plus psychologique. Et là, on a fait tout un travail d'adaptation pour rentrer beaucoup plus dans l'intimité des personnages, qui se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes en fait. Et donc cette nuit, parce que en fait ce qui est fou, c'est que c'est 8 épisodes mais qui se passent en une nuit. Alors évidemment, on revient sur le passé, donc on tient 8 épisodes, mais en une nuit en fait, ils vont réussir à s'interroger beaucoup sur leurs ressentis grâce à cette rencontre entre eux. Ils sont très différents, ils viennent d'univers très opposés. Océan, c'est un jeune garçon du 16e arrondissement.
On n'imagine pas qu'il puisse commettre ça, on n'imagine pas qu'il puisse en arriver là, lui, alors que on sent bien que Mina est plus au bord du rouleau, enfin, elle est au bout du rouleau.
Dès le départ, on le sent, mais ce qu'on va découvrir après, c'est que finalement, Océan est tout aussi dans un mal-être extrêmement profond. Je ne spoile rien aux futurs téléspectateurs.
Surtout pas.
On va découvrir un garçon, effectivement, au départ, très grande gueule, très je me la raconte, très à faire plein de blagues, mais ça cache une énorme hypersensibilité. Voilà. Moi, je suis très, très heureuse de ce qu'on a pu faire. Je trouve le résultat absolument flamboyant, avec la mise en scène de Jonathan et Anthony, les comédiens.
Victor, comment vous êtes réparti les tâches? Il y en a qui a plus écrit sur un des personnages, ou vous avez vraiment travaillé en collaboration de concert ensemble?
Non, c'est ça qui est super dans la série, ou en tout cas comment on l'écrit nous, c'est que c'est très collaboratif depuis le début, depuis quand on réfléchit à l'intrigue, et puis les choses se construisent petit à petit, mais l'idée c'est ça, c'est que, comme disait Margot, on a apporté l'un et l'autre beaucoup de choses de notre vécu, et de notre expérience de l'adolescence en particulier. Ce qui, moi, me plaisait dans cette idée de départ et cette rencontre un peu improbable, c'est qu'en fait, c'est deux ados qui se rencontrent au plus vulnérable et au plus vrai de ce qu'ils sont, sauf qu'ils se connaissent pas par ailleurs, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre leur relation un peu à rebours. Ils savent le plus vrai et le plus profond, mais ils vont devoir apprendre à se connaître de façon presque progressivement plus normale, disons, c'est-à-dire savoir qui est l'autre, en fait, au fond, à part, au-delà de sa détresse, quoi. Donc c'est un peu ce chemin à rebours, moi, qui m'a plu, mais pour répondre à votre question, non, c'est toujours une écriture très collaborative, et c'est en ça que c'est super, quoi, cette expérience.
On interroge beaucoup de choses sur l'adolescence, mais on interroge aussi, quelque part, lors de cette nuit, est-ce qu'un avenir est possible, finalement, alors qu'ils sont prêts à le foutre en l'air, cet avenir ? D'où nos vies en l'air.
Ce qui était important pour nous, c'était au travers de cette série, qui effectivement a un point de départ assez dramatique, puisque c'est quand même deux personnes qui veulent mettre fin à leur vie, c'était aussi de montrer que, bien évidemment, il n'y a rien de définitif, mais que il faut trouver les bonnes portes, il faut trouver les bonnes personnes. Et ce qui nous importait surtout, nous, sur cette série, c'est quand on la voit, c'est une série qui est toujours du point de vue des adolescents. On cherchait absolument pas à moraliser, à donner des leçons ou à donner des tiens, un adulte va dire pour se soigner, il faut aller dans cette direction ou il faut faire ceci ou cela. Et c'est surtout en fait d'essayer de dire qu'au travers du dialogue, au travers d'un prisme différent, tout ce qu'on peut vivre peut avoir un point de vue un peu différent et peut être abordé de manière différente, et que au fin, il y aura toujours, on peut toujours quand même essayer de trouver une porte de sortie, de trouver un peu un espoir, et qu'il faut juste effectivement avoir la chance parfois de tomber sur l'interlocuteur qui va permettre de changer son propre point de vue, quoi.
Vont-ils se sauver tous les deux? C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de ces 8 fois 26 minutes, et on va retrouver leur parcours. On va en parler avec eux dans un tout petit instant. Nos vies en l'air, ça sort sur France.tv, une série à ne pas rater, qui nous a en tout cas beaucoup plu et qu'on vous conseille évidemment d'aller voir sur la plateforme de France Télévisions. Merci Victor, merci Margot, merci Bertrand. J'entends les comédiens qui arrivent. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec eux. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci.
Ça va être fou d'ici, hein. Et tu comptes sauter où, là? Parce qu'en fait, faut faire gaffe aux bagnoles. Si tu tombes sur une voiture, après, la carrosserie, c'est un amorti-choc et tu te retrouves à survivre, après, t'es en fauteuil.
Tu touches ma gueule?
Excuse. Vas-y, fais ce que t'as à faire, regarde. Moi, je suis pas là. Tu peux y aller.
Tu crois que je vais pas le faire?
Si, au contraire, là, je te sens au taquet, c'est bien, moi. Ça me motive.
Hein?
Je vais me faire la même chose.
Pardon?
Mais vas-y, hein, t'as la prio, je te regarde. Enfin, non, je te regarde pas, mais c'est quand tu veux. Mais prends ton temps surtout, hein, je voudrais pas te presser.
Ok, tu peux partir, s'il te plaît.
Ah, je te gêne, là.
Bah, un peu, je t'ai pas parti pour un suicide collectif, là, en fait.
Ah non, attention, c'est pas collectif, hein, vu que je saute après, ça
compte
pas.
Ok, pars, s'il te plaît, je t'en supplie, va autre part, trouve un autre pot, j'en sais rien, mais pars.
Ok, grave, et ben, je bouge. Et adieu, du coup.
Parfait pour me discréditer.
C'est ça qui vous dérange? Le fait que je me sois fait humilier et maltraiter, ça c'est pas votre problème?
C'est moi que vous humiliez. En plus de votre famille. Vous êtes malade, Clémence. Et vous le savez.
Ça vous arrange bien de me mettre dans cette case? J'ai fait de mal à personne.
Est-ce que vous croyez que c'est bon pour Océan d'assister à ce genre d'esclandre? Alors c'est très simple. Soit vous reprenez votre traitement, soit je vous éloigne de notre fils. C'est clair?
Jamais à ta parole!
Qu'est-ce que tu fais là?
Retourne te coucher, s'il te plaît.
Je veux pas que maman s'en aille.
Allez, de retour pour notre spécial Nos vies en l'air. Ça sort ce 25 octobre sur France.tv, sur la plateforme Slash, à découvrir évidemment une fiction en 8 fois 26 minutes. Et vous allez découvrir justement ces personnages incarnés par Inès Kermas, qui est avec nous, qui joue le rôle de Mina. Bonjour Inès.
Bonjour.
Puis Anthony Goffi, qui est avec nous, qui joue le rôle de Océan. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. On a planté un peu le décor, justement, avec vos auteurs et producteurs. C'est une adaptation du roman Nos vies en l'air de Manon Fargueton qu'on découvre. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est effectivement d'arriver à essayer de nous faire comprendre au fur et à mesure de ces 8 épisodes ce qui vous a poussé tous les deux à vouloir commettre l'irréparable. C'est se jeter du haut d'un immeuble et de se suicider. On va repartir en arrière pour comprendre comment vos personnages en sont arrivés là. Et j'ai trouvé très intéressant intéressant, en tout cas cette construction. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, en premier, quand vous avez lu le scénario? Qu'est-ce qui vous a emballé, en tout cas, Inès?
Ce qui m'a emballé, c'est déjà le personnage de Mina. Enfin, déjà, juste que ce soit Mina ou Océan, j'étais très impressionnée par la palette d'émotions et tout ce qu'on pouvait jouer en 8 épisodes. Enfin, on passe vraiment partout. On a la chance de, en tant que jeune comédien, tout le monde n'a pas la chance, en fait, de pouvoir jouer autant de choses.
C'est ça.
Et de pouvoir avoir des rôles aussi forts. Surtout quand on commence. Enfin, pour nous deux, c'est nos premiers rôles principaux. Moi, c'est mon premier rôle tout court. C'est mon premier tournage. Enfin, c'est un premier tout. Donc, déjà, il en fallait très peu pour m'impressionner.
Écoute, en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé la construction hyper intéressante. Et tu incarnes vraiment Mina qui est au bout du rouleau. Je crois qu'on peut le dire. C'est deux personnages qui, en fait, n'auraient pu ne jamais se croiser, que tout oppose, hein, en quelque sorte. Mais on va découvrir que Océan recèle peut-être une carapace, on va voir. Mais alors lui a un côté quand même un peu grande gueule, désinvolte.
Oui. Bah, je dirais un côté un petit peu flamboyant. Disons qu'il utilise pas mal de fois des masques un petit peu pour cacher, comme vous avez dit, l'intérieur et sa vraie vulnérabilité. Et au fur et à mesure des épisodes, on commence à le découvrir. Et pour revenir sur la question précédente, si je puis me permettre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur le scénario, en fait, c'est très simple, c'est le concept. C'est-à-dire que c'est pas comme les séries où on peut suivre plusieurs semaines une école ou ce genre de choses, ou un commissariat. Là, c'est très simple, c'est un concept. C'est-à-dire que les 8 épisodes s'enchaînent et racontent une seule nuit. Et j'aime bien, je trouve ça, ce mood d'être dans Paris la nuit, c'est ça qui m'a plu sur la série. Ça répondait au fond de moi cette idée de se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais tout seul dans Paris la nuit et que je savais que c'était la dernière fois de ma vie et que j'allais mourir le lendemain. Et c'est un peu ça.
Ce que j'ai trouvé assez beau, est-ce que vous allez vous sauver l'un l'autre? C'est la question qu'on va se poser tout au long, hein, jusqu'à la fin. J'espère qu'on aura la réponse à la fin des 8 épisodes.
On dit pas, on dit rien.
On aura la réponse au moins ou pas?
On dit rien.
Moi, ce que je peux dire, c'est que...
Il y aura peut-être une saison 2 alors.
Bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que c'est un message d'espoir. Voilà.
Ah, bah déjà, c'est pas mal. Quand vous êtes rencontrés tous les deux, parce que vous partagez quasiment toutes vos scènes, hein, quand même toutes les scènes de nuit, en tout cas tournage de nuit, vous partagez quasiment toutes les scènes de nuit, vous êtes quasiment tout le temps tous les deux à l'écran sur toutes ces scènes là. Comment vous les avez appréhendées?
Encore une fois, personnellement, je savais pas trop à quoi m'attendre vu que j'avais jamais rien fait du tout, mais j'étais très excitée de surtout la première semaine, parce qu'on a fait la première semaine à Paris, de pouvoir voir Paris de nuit. Et il y a notamment une séquence où on est en trottinette dans Paris de nuit et qu'on passe devant des monuments. Et franchement, ça, c'était magique. C'était mort, vraiment. Des endroits que d'habitude, on voit bondés de monde. On était tous les deux sur une trottinette. C'était incroyable. Et sinon, à deux, j'appréhendais pas tant que ça. Au contraire, je pense que ça me rassurait. Le fait de pas être toute seule.
Oui, d'être embarqué à deux dans les personnages principaux, en quelque sorte.
Exactement. Bah, vu que c'était, comme tu l'as dit précédemment, tous les deux notre première fois en tant que rôle principal, et rôle principaux pour nous deux, bah, c'était agréable de pas être seul à porter tout ce fardeau. On a été un petit peu l'un pour l'autre. C'est drôle d'ailleurs, au départ, quand on s'est rencontrés, on voulait tellement tous les deux que ça se passe bien que ça s'est pas mal passé, mais c'était un petit peu gênant parce qu'il y avait tellement d'enjeux sur notre relation qui allait devoir construire cette série que les premiers temps on a eu du mal à se trouver.
On s'était mis une pression pour bien s'entendre. Moi, je me suis dit, s'il me déteste, c'est mort, c'est fini.
Dans la fin du tournage.
Ouais, vraiment, vraiment. Je me dis, il y a 38 jours, surtout que bah on fait des scènes pas très simples, donc si on peut pas être à l'aise avec la personne en face de nous. Et qu'on peut pas travailler ensemble parce que la moitié du travail, enfin la moitié de ce que je fais, ça vient de lui en fait. Donc si on réussit pas à être ensemble, on est vraiment mal foutu.
Au départ, tu te demandes d'où il sort quand même. Hein. On le voit quand même dès le premier épisode. C'est une berlue là, mais ouais. Mais il sort d'où? Qu'est-ce qui vient m'emmerder dans mon moment où j'ai envie de me jeter du haut d'un immeuble quand même. Hein. On voit l'interrogation dans ses yeux, Amina.
Oui, c'était rigolo quand on travaillait sur les premières scènes de rencontre avec les réals pour un peu englober l'image que représentait Océan. À ce moment-là, on l'appelait génie sous coke. C'est un peu le génie de la lampe qui sort comme ça d'un seul coup, ayant consommé des produits illicites.
Oui, ça fait un petit peu. On se disait que ça faisait un petit peu Disney, c'est-à-dire voilà, Mina, ce n'est pas une princesse, mais la princesse comme ça qui se fait embêter par une sorte de génie sous coke. C'est comme ça qu'on disait. C'est un mélange entre la Disney et bon la coke, c'est pas terrible. Mais tout ça pour dire que oui, ce qui est intéressant dans ces scènes, c'est que c'est les scènes de casting. Donc ces fameuses scènes de rencontre, c'est là où on s'est rencontrés pour de vrai, parce qu'on a fait les essais groupés, donc des essais ensemble pour essayer. Inès et moi-même, et c'était ces scènes-là. Donc la vérité, c'est qu'on s'est peut-être rencontrés comme ça dans la vraie vie en jouant cette scène. C'est ça qui est drôle. Voilà.
Dernière question. Quand on tourne comme ça beaucoup de nuit, il y a la fatigue, il y a plein de choses qui arrivent. Vous allez nous raconter une crise de décompression que vous avez pu avoir. Je suis sûr qu'il y en a eu.
Là, peut-être la pire nuit du tournage. C'était le troisième jour de tournage. Donc, je ne sais pas si vous avez encore vu la série.
Le 22 février, voilà. 2024.
Elle s'en souvient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série, mais en tout cas, c'est vraiment le climax de la série. C'est sur un pont. Il y avait du vent, il pleuvait. En plus, il y avait tellement de personnes importantes qui étaient venues ce jour-là pour regarder ce qui se passe. Il y avait l'autrice du livre, Manon Fargeton. Il y avait les auteurs, donc Margot Bonhomme, Victor Lockwood. Ensuite, il y avait la directrice de casting, la chaîne, tout le monde qui vient le soir de la scène, les scènes les peut-être les plus importantes de la série. Et nous, on venait à peine de commencer le tournage, donc on n'avait peut-être pas forcément tout à fait confiance sur les personnages. Et là, je veux en venir au moment de répit qu'on a eu dans cette voiture. Avec ce délicieux chocolat, je te laisse terminer.
Parce que du coup, c'était sur le pont Alexandre III. Faut savoir qu'on a encore du stress post-traumatique dès qu'on passe devant le pont Alexandre III.
Parce que c'était une nuit, donc en février, il faisait très froid. Et je me rappelle qu'à l'époque, sur Internet, les gens disaient « c'est la tempête à Paris, c'est quoi ce délire ?» Il y avait du vent, de la pluie et du froid.
Et surtout, ça faisait... c'était toi qui avais dit ça, il y avait vraiment une bouche d'aération. Il y avait le vent de la Seine en dessous. J'ai fait l'hypothermie, hein, premier degré. Ouais. Et du coup, à un moment, on n'en pouvait plus. Ils avaient ramené une voiture chauffée. À un moment, on avait une grosse pause. Et vraiment, il y a ce moment de silence où Anthony et moi, on est assis derrière sur une banquette dans la voiture. On est en train de regarder le vide comme ça. Ouais. Et on nous a ramené du chocolat noir.
Caramel beurre salé.
Non, caramel pointe de sel.
Caramel pointe de sel, pardon.
C'est toute la différence.
Oui, voilà. Et il y a ce moment de silence. Juste on mange comme ça le chocolat et on se regarde, on se dit c'est vraiment ça notre vie.
Non, on se disait aussi que c'était le meilleur chocolat. Moi, c'était le meilleur chocolat de toute ma vie.
Ah non, c'était magnifique, j'étais à ça de pleurer, c'était trop beau.
Parce qu'il faut savoir que les nuits comme ça, on le sait pas forcément, mais ça commence à 18h et ça termine à 7h du matin. Ouais. Donc là vraiment on parle d'un moment qui a dû se passer à, je sais pas, à minuit ou quelque chose comme ça, et trempé dans le vent, etc. Et voilà, c'était vraiment un moment de refuge, on était morts de rire tous les deux à manger notre chocolat.
Et là, en mangeant ce chocolat, vous êtes dit ça serait dommage de foutre nos vies en l'air.
Exactement.
Voilà, Nos vies en l'air ce 25 octobre, c'est à découvrir sur la plateforme / de France.tv. Merci Anthony, merci Inès d'avoir été avec nous pour en parler. On va découvrir les 8 fois 26 minutes de cette belle histoire d'espoir. Vous allez voir, il va se passer plein de choses, en tout cas pendant cette nuit. Il y aura des choses rocambolesques, vous allez voir. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent, en tout cas. Allez-y, allez la découvrir. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses, en tout cas pour la suite. À vous deux.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci. Première interview de toute notre vie.
Voilà.
Waouh.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, nous recevrons toute une partie de l'équipe justement de Murder Club qui nous rejoindra, dont Eric Cantona et Tiffen Davio. On va parler également avec Pierre Scholler notamment et son équipe de la série Dans l'ombre qui débarque sur France 2. Nous aurons le grand plaisir de recevoir Reda Kateb pour la sortie de son film Sur un fil. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer la semaine prochaine.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponible dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.